Si vous avez loupé les précédents épisodes de Destin de Légende, sachez qu'ils sont disponibles et que vous pouvez les écouter avant d'entamer celui-ci. Pour les autres, la partie 2 de votre série commence maintenant. Une superstar qui n'a plus rien à prouver. Auteur de l'album le plus vendu de l'histoire du disque, il a prouvé qu'il était un artiste accompli. Mais derrière le roi de la pop se cache un homme aussi intrigant que fascinant. Durant les années 90, Michael Jackson se présente comme une énigme charismatique.
The true king of pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson.
Tout semble aller si vite. Hier, il était le gamin, leader des Jackson 5. Aujourd'hui, c'est la plus grande star de la musique dans le monde. Un chemin long et périlleux où seul Michael semble être le survivant. Cette route nous amène tout droit au début des années 90 et celui qu'on surnomme désormais le roi de la pop grâce à Elizabeth Taylor décide de se réinventer. Après s'être séparé de ses frères, il décide de dire au revoir à Quincy Jones après 3 albums couronnés de succès. Désormais seul maître à bord pour gérer ses affaires, il en profite pour faire ce qui lui plaît, il aborde sereinement cette nouvelle décennie en préparant un album célébrant ses 10 dernières années de carrière. Isabelle, après Thriller et avec le succès de l'album Bad, Michael est une méga star. Comment va-t-il réussir à gérer cette énorme notoriété ?
Après le succès de l'album Bad, Michael Jackson se retire des médias. Il n'y était déjà pas forcément très présent avant, mais la construction et tout le cœur qu'il va mettre à Neverland, dans le ranch, dans les jardins, l'isolement également du lieu, vont être pour lui la possibilité de créer sa propre bulle de ressourcement, de récupération, d'opérer un retour bien sûr vers l'enfance, vers la nature, un retour vers des valeurs. Et pour celui qui n'est désormais plus témoin de Jéhovah, un retour vers la spiritualité aussi.
Au début des années 90, Michael travaille sur un nouveau projet, une compilation qu'il va abandonner au profit d'un nouvel album, Dangerous, l'occasion pour lui d'opérer des changements importants dans sa carrière.
Lorsque Michael Jackson édite Dangerous, il a 33 ans, un âge crucial, et il n'est plus accompagné de Quincy Jones. C'est vraiment pour lui un véritable défi de devenir son propre producteur exécutif. Et en même temps, c'est un vrai challenge car il se sent pleinement investi et libre. Lui qui aime contrôler les processus créatifs de A à Z, être son propre patron, être très indépendant, c'est l'occasion pour lui de montrer que le succès n'est pas, contrairement à ce qui est souvent dit, lié à Quincy Jones, mais bien à lui-même, à sa créativité, à ses talents.
Longtemps envisagé, Decade ne verra pas le jour. Michael Jackson estime qu'il a beaucoup trop de bonnes chansons et décide donc de travailler sur un nouvel album. Désireux de toujours surprendre son public, il cherche de nouvelles sonorités. Et ça tombe bien parce que les années 90, c'est l'âge d'or de la musique urbaine au sens large du terme. Michael en est conscient et c'est tout naturellement qu'il décide d'en incorporer dans son nouveau projet. Il se met alors à la recherche d'un producteur capable de relever un énorme défi, celui de participer à une nouvelle mue du roi de la pop.
Michael m'a mis dans le processus de vérification, mais c'était genre une bonne vérification. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose, et il me montre un tableau et il y avait genre 60 chansons. Tu vois ces chansons en rouge ? Remember the time, she drives me wild, black or white, jam, hear the world, will you be there ? Les chansons qui sont écrites en rouge sont enregistrées, c'est sûr.
Sacré Teddy Riley qui imite ici Michael Jackson. En studio, on va parler justement de ce producteur, mais avant, Isabelle, on a bien compris que cet album est le signe du renouveau pour Michael avec le départ de Quincy Jones. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur l'élaboration de Dangerous ?
L'album Dangerous est vraiment le fruit d'un travail d'équipe de production renouvelée. Pendant 3 ans, Michael va travailler sur cet album. Il va enregistrer des pistes expérimentales avec Bill Bottrell, Brad Buxer, Matt Forger. Certaines vont aboutir à des titres bien connus comme Black or White, Who Is It, et d'autres comme la chanson-titre Dangerous ou encore Monkey Business qui ne sera édité qu'en 2004 ou Earth Song qui sera édité finalement sur History. Dangerous est vraiment, comme tout processus de travail de Michael, l'occasion d'un défi créatif stimulant. Il va ériger en lieu et place de l'unique Quincy Jones deux équipes de production qui vont créer deux types de sons. On va donc avoir d'un côté l'arrivée de Bill Bottrell, qui avait commencé à travailler en tant qu'ingénieur sur Bad, et qui signe lui un style plus attaché aux racines blues, rock, folk et country, une sensibilité musicale donc très différente de Quincy Jones ou encore de Teddy Riley. Michael aime ces styles musicaux. Il les aime d'ailleurs autant qu'il aime l'idée de pouvoir les explorer de manière nouvelle et autant que la manière qu'a Bill Bottrell d'en infuser la pop. Teddy Riley, lui, va apporter plutôt le son de la rue.
On vient de l'évoquer, le successeur de Quincy Jones, Teddy Riley devient le coproducteur du nouvel album de Michael. Pouvez-vous nous en dire plus à son sujet ?
Il est né en 67, c'est un chanteur et producteur américain de New Jack Swing, de R&B et de hip-hop. Il a travaillé avec Bobby Brown, il a travaillé aussi avec K-Sweet, Heavy D, Usher, et il est lui-même le membre des groupes Guy et Blackstreet. Alors c'est vraiment un jeune prodige musical, originaire de Harlem, qui a commencé à produire et à chanter dès l'adolescence. En 87, à l'époque de Bad, donc, il arrive sur la scène internationale en produisant l'album de K-Sweet, Make It Last Forever. Et en 89, il remporte même un Grammy pour la chanson de Bobby Brown, My Prerogative. Dans cette chanson, il mélange les sensibilités urbaines du hip-hop avec la douceur du R&B et ça donne un résultat sonore qui est assez proche de la chanson Bad de Michael Jackson. Alors on attribue à Teddy Riley vraiment un impact massif sur la formation du R&B contemporain, du hip-hop et de la soul, puis de la pop évidemment, depuis les années 80.
C'est un jeune prodige de la musique qui a un style très différent de son prédécesseur. Pourquoi avoir choisi Teddy Riley plutôt qu'un autre?
Michael Jackson le rencontre en 91 et à cette époque-là, Teddy Riley a 25 ans. Michael prend quand même un risque en le recrutant, mais il veut absolument un son urbain et relevé qui contrebalance l'image sophistiquée que sa production draine généralement. Michael aime aussi donner sa chance aux jeunes et servir de tremplin pour des personnes chez qui il pressent vraiment un gros potentiel, des personnes qui peuvent lui apporter une plus-value. C'est le cas donc de Teddy Riley, qui va coproduire la moitié de l'album Dangerous et qui est d'ailleurs même recommandé par Quincy Jones auprès de Michael.
Michael va profiter de Dangerous pour faire évoluer son personnage et sa musique, mais la promotion de ce disque est aussi à l'image du roi de la pop, mystérieuse.
Cet album va d'ailleurs être porté par une promotion tout à fait marquante, avec le teaser de David Lynch, le réalisateur, qui est franchement impressionnant pour un simple album, dirait-on, et qui en quelques éléments visuels et quelques couleurs donne déjà à voir la substance de l'album, en termes sonores bien sûr, en termes de message également, et aussi celui de la pochette avec le regard perçant de Michael qui apparaît à la fin. C'est vraiment une opération promotion qui est très marquante pour l'époque. Évidemment, pour rester dans le domaine du visuel, la pochette, le tableau réalisé par Mark Ryden pendant près de 6 mois, va être un point d'accroche très important, puisque avant même le contact avec le son, c'est bien visuellement que l'acheteur a contact avec un album. Donc la pochette, c'est un peu comme le flacon de parfum. On ne sait pas trop avant de sentir et le flacon est censé déjà vous donner une indication et vous attirer ou pas.
Pour faire simple, la promotion du nouvel album de Michael est partout. Et cette promotion de grande envergure lui permet d'asseoir un petit peu plus sa domination dans cette industrie musicale. Peu conventionnelle pour l'époque, elle se révèle très efficace. Et quand le disque sort, le 20 novembre 1991, il emporte tout sur son passage. 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde la première semaine. Michael est au top de sa carrière. Les professionnels de la musique se bousculent pour travailler avec lui, mais ils ne sont pas les seuls. Un casting 5 étoiles l'épaule dans la promotion de son nouvel album. Michael Jordan, Naomi Campbell, Eddie Eddie Murphy, Macaulay Culkin, la star du film Maman, j'ai raté l'avion, ou le guitariste de Guns N' Roses, Slash, ils sont tous là pour collaborer avec le roi de la pop. C'est bien simple, en 1991, Michael semble intouchable. 5 millions d'exemplaires vendus la première semaine, c'est un excellent démarrage pour Dangerous, qui semble avoir réussi son pari, mais j'aimerais bien savoir comment se porte réellement le marché du disque à cette époque.
L'album Dangerous arrive sur le marché à une époque où celui-ci a été consolidé à la fin des années 80, mais en même temps connaît une nouvelle fragmentation, la même presque qu'à l'époque de Thriller. C'est vrai qu'à l'époque de Dangerous, on a vraiment une consolidation de la culture hip-hop et du rap à travers l'émergence du gangsta rap. Même Prince, à l'époque, rompt avec sa signature musicale singulière et renoue avec des conventions plus formatées du hip-hop et du rap, notamment dans son album Diamonds and Pearls. À l'opposé de ce marché musical, on a le courant grunge avec notamment l'album Nevermind de Nirvana. À cette même époque, on a le chanteur de country pop Garth Brooks également, qui monte au sommet des charts, le rappeur MC Hammer, Vanilla Ice, des groupes comme Living Color ou Black Rock Coalition. Et on a vraiment de la place pour tout le monde, de Paula Abdul, Mariah Carey, Guns N' Roses, Rem, à Janet Jackson, Whitney Houston, Madonna, Michael. Ce marché est très très éclectique.
Ce qui m'amène à cette question, vous me voyez peut-être venir, Isabelle. Quelle est la stratégie de Michael pour se démarquer des autres artistes dans cette industrie visiblement très variée?
Alors, comment Dangerous s'y place et comment il y répond? Eh bien donc par cette variété, ce panel stylistique, qui va donc de la musique classique que l'on retrouve dans l'intro de Will You Be There, au rap le plus incisif qu'on trouve notamment dans le pont de Can't Let Her Get Away, en passant par la soul, le gospel dans Keep the Faith, des ballades plus mélodiques dans Gone Too Soon, du rock dans Give In To Me, avec une alternance de ballades lentes et mélodiques comme Heal The World, Gone Too Soon, ou des titres plus up-tempo et rythmiques comme James, avec des sons naturels d'orchestre et des chœurs, ou des sons beaucoup plus synthétiques. Donc à la fois, ce panel stylistique est doublé d'un panel sonore. Il se situe à l'échelle des chansons, qui sont chacune dans des styles différents, mais également à l'intérieur de des chansons, puisque beaucoup combinent des éléments, on va dire, stylistiques différents. Je pense particulièrement à Black or White, qui combine un riff de rock avec un groove soul-funk, un solo de heavy metal, un pont de rap, ou encore Dangerous, dans laquelle Michael tient absolument à conserver des cordes par-dessus la basse de New Jack Swing.
Vous parliez de Black or White, qui va se démarquer grâce à son clip innovant, et c'est vrai que Michael a la réputation d'être un innovateur grâce à ses clips vidéo, et il ne va pas déroger à la règle avec ce nouvel album, mais cette fois-ci, il va en profiter pour faire passer des messages qui lui tiennent à cœur, comme dans le clip de Black or White, justement.
L'album Dangerous va également être porté par des clips très marquants, des clips très conscientisants. Par exemple, Black or White, bien sûr, qui est diffusé simultanément dans 25 pays et qui atteint une audience record de 500 millions de téléspectateurs, donc en mondovision, et qui va venir pour la première fois chez Michael titiller la question du racisme de manière assez frontale, la question des violences policières, la question d'un choix de société, d'un choix d'acceptation, de tolérance ou de dualité, de conflit. Mais également d'autres vidéos comme aussi Remember the Time, dans laquelle Michael Jackson finalement remet au goût du jour le fameux slogan des années 60 « Black is beautiful » puisque c'est une production intégralement noire. C'est une période où Michael est adulte, où il entend vraiment parler de sujets qui lui tiennent à cœur, qui sont importants. Et parmi ceux-là, la question de son identité raciale qui est constamment mise à mal puisqu'on l'accuse de déni, on l'accuse de perte d'identité. Eh bien justement, cette question, il va la contrebalancer par ces dialectiques visuelles remettent en scène le fait d'être un noir et d'être fier de l'être, fier de ses origines, de sa culture, de son appartenance.
Se réinventer a toujours été le maître mot de Michael et ça lui a même permis de réaliser un sans-faute dans cette industrie musicale. Il innove sur ses albums, mais aussi sur scène, quand il décide de partir en tournée.
Presents Michael Jackson, Dangerous World Tour.
Et oui, ce n'est pas avec le Dangerous Tour que la puissance du roi de la pop dans cette industrie va s'estomper. En tout cas, en Europe. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a aucune date de prévue aux États-Unis. Il faut dire que depuis quelques temps, les Américains ne portent plus la star dans leur cœur. Et les ventes de disques au pays de l'oncle Sam sont en baisse. Durant la première partie de sa tournée, Michael tente de redorer son image dans son pays natal. Il va se lancer dans une véritable campagne pour reconquérir ses fans américains, avec l'objectif d'être enfin compris par ses compatriotes. Isabelle, ce n'est pas la première fois que Michael est critiqué, mais cette fois-ci, les chiffres de ses ventes de disques aux États-Unis sont en baisse. Pourquoi ?
Michael Jackson, à cette époque, n'est pas favori dans le cœur des Américains. Bien sûr, les rumeurs sont pour beaucoup dans le regard critique et même dans la manière dont est reçu l'album Dangerous, puisque beaucoup de critiques diront que les clichés qui sont portés par les tabloïds et toutes ces histoires que l'on raconte sur lui empêchent une écoute objective de l'album. Toutes ces polémiques parasitent, toutes ces polémiques cassent, sabotent le travail musical, artistique, le message de Michael Jackson. La presse lui en veut, il s'en est éloigné, il ne leur a plus donné de grain à moudre. La presse a horreur du vide, elle compense. Michael Jackson ne réagit pas forcément, il ne veut pas y apporter de crédit, il est à Neverland, il a d'autres choses plus positives à faire. Peu importe, malheureusement, ce travail de sape continue en arrière-plan.
Même si les médias sont de plus en plus virulents envers lui, Michael continue d'attirer l'attention et reste sur le devant de la scène avec son nouvel album. Pourquoi ses détracteurs n'ont pas réussi à l'éclipser totalement ?
La sortie de l'album Dangerous va être l'occasion pour lui d'être remédiatisé. Il y a bien sûr la diffusion du court-métrage de Black or White dont on a parlé, mais il va également y avoir, pour accompagner la sortie de l'album, une semaine de diffusion par MTV des vidéos de Michael Jackson, au cours de laquelle il est régulièrement, de manière répétitive, nommé le King of Pop, tel que Liz Taylor elle-même l'avait appelé en lui ajoutant les autres vocables King of Pop, Rock, Soul, etc. etc. Le 31 janvier, il va également donner le concert d'ouverture de la finale du 27e Super Bowl, durant laquelle il va toucher, toujours en Mondovision, 133,4 millions de spectateurs. Il va être aussi médiatisé lors des cérémonies des American Music Awards, des Grammy Awards, où il reçoit des mains de sa sœur Janet le Grammy Legend Award, et il plane sur le film Sauver Willy, dont la bande originale n'est autre que Will You Be There. Et puis le 10 février, il participe pour la première fois depuis 14 ans à une interview en prime time avec Oprah Winfrey dans une émission qui va être qualifiée d'événement de l'année et qui donc rassemble près de 90 millions de spectateurs rien qu'aux États-Unis.
Ce soir, je vais interviewer Michael Jackson en direct. Tout le monde me demande quand est-ce que je vais le faire. Ce matin, je quitte mon immeuble. Un homme surgit et me dit « Hey, Oprah, quand est-ce que tu interviews Michael ?» Et je lui ai dit « Ce soir, ce sera en direct. »
L'enthousiasme d'Oprah Winfrey en dit long. Et on la comprend parce que cet entretien lancera véritablement sa carrière. Il est diffusé dans le monde entier et affiche une audience record. Entre 90 et 100 millions de personnes découvrent une autre facette du roi de la pop. Et c'est normal puisqu'Oprah Winfrey n'hésite pas à aborder tous les sujets avec lui et notamment les différentes rumeurs qui circule sur lui.
Tout d'abord, j'ai visité votre maison pour préparer cette interview. Je suis allée partout, dans toutes les pièces, pour chercher le fameux caisson à oxygène. Et j'ai rien trouvé du tout. Pas la moindre trace d'un caisson à oxygène.
Non, cette histoire est tellement dingue. C'est une de ces histoires inventées pour les tabloïdes. Tout a été inventé.
Je vais vous poser une question et c'est très gênant pour moi de vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous êtes vierge ?
Oh, mais comment est-ce que vous pouvez me poser ce genre de questions ?
Je voudrais simplement savoir.
Certaines choses doivent rester privées. En fait, nous ne devrions même pas discuter de ce genre de choses, surtout de cette façon. Vous pouvez dire de moi que je suis vieux jeu, hein, si vous voulez, mais pour moi, c'est une question vraiment très personnelle.
Avez-vous acheté le squelette d'Elephant Man ?
Non, c'est une autre de ces histoires complètement stupides. J'aime beaucoup l'histoire d'Elephant Man. Ça me rappelle énormément ma propre histoire. Vous savez, ça m'a fait pleurer parce que je me vois dans cette histoire. Mais je n'ai jamais demandé à acheter les os d'Elephant Man. Qu'est-ce que je vais faire avec des os ? Où est-ce que je vais les mettre ?
Je n'en sais rien du tout.
Quelqu'un invente ses âneries et tout le monde y croit. Plus vous entendez un mensonge et plus vous y croyez.
Oui, et surtout que des gens se font de l'argent en racontant cela dans les tabloïds pour les vendre ensuite.
Ça faisait 14 ans qu'il ne s'était pas exprimé. Pourquoi avoir choisi à ce moment-là de le faire, Isabelle ?
À l'époque où Michael Jackson réalise cette interview avec Oprah Winfrey, les rumeurs vont encore bon train. Et ça va être l'occasion, dans une ambiance plutôt décontractée, dans une certaine impression de complicité, de démêler le vrai du faux. Michael Jackson va donc aborder les questions liées aux fameux os d'Elephant Man, au fait qu'il ait pu ou pas dormir dans un caisson hyperbare pour ne pas vieillir, au fait qu'il se blanchisse la peau. Et c'est bien la première fois où il va parler du vitiligo. On va parler également de ses relations personnelles avec son père, des violences qu'il aurait subies dans son enfance, de ses relations personnelles et intimes avec des femmes, lui demander éventuellement s'il est vierge. Bref, une vraie conversation de soirée pyjama sur un ton assez bon enfant, au cours de laquelle Oprah Winfrey détectera quand même que le moment le plus sensible pour lui est celui où on parle de sa couleur de peau et où on remet en question sa fierté raciale.
On l'a entendu, elle n'a pas hésité à aborder tous les sujets avec lui dans une ambiance bon enfant, une ambiance qui va se poursuivre tout au long de cette interview et où Michael ne va pas hésiter à s'ouvrir davantage face à son hôte.
Je veux vous voir danser.
Oh,
je veux vous voir danser
non.
Maintenant.
Non, mais je peux vous montrer un ou deux pas. Je suis pas vraiment échauffé.
Je voudrais que vous chantiez quelque chose a cappella pour moi.
Oh non, qu'est-ce que je peux chanter ?
Who is it ? Peut-être que vous pourriez faire un de vos trucs de beatbox, vous savez ?
I gave my money, I gave my time, I gave everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right, but the will is right, no function, still I cry alone. And don't you judge of my composure, cause I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just upped and ran away.
Oh! Wow! Magnifique! Je ne pourrai jamais vous remercier assez de nous avoir ouvert votre maison et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je vous souhaite sincèrement tout le bonheur possible. Vous savez, j'adore être ici parce que j'ai vraiment cette impression d'être une petite fille à nouveau. Et en venant ici, je me suis promis que je ferai un tour dans vos attractions. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais aller sur les manèges. J'ai bien l'intention de m'amuser comme une folle et de manger du pop-corn. Et une fois que j'aurai fini, peut-être que vous allez me montrer comment faire le moonwalk quand il n'y aura plus personne pour me regarder danser.
Finalement, Isabelle, l'effort de Michael de s'exprimer après 14 ans de silence a-t-il porté ses fruits ? Est-ce que le retour des téléspectateurs est positif ?
Cette émission, durant laquelle il va d'ailleurs faire le moonwalk et qui va donner l'occasion de montrer son Neverland au monde, va avoir à la fois un impact favorable et en même temps, finalement, non pas défavorable, mais laisser les choses en statu quo, puisque le vitiligo, dans ces années-là, ça ne parle à personne. Cette communication un peu tardive semble suspecte. Et finalement, ceux qui veulent bien rester dubitatifs et rester méfiants à l'égard de Michael Jackson ne seront pas pour autant convaincus après son intervention et continueront de garder leur méfiance et les clichés qu'ils ont malheureusement en tête.
Une des choses les plus marquantes dans cette interview, c'est qu'elle se déroule à Neverland, une immense demeure que Michael a construite à son image et dans lequel il aime se ressourcer. Le problème, c'est qu'il se retrouve, entre guillemets, souvent seul, entre ses murs. Alors pour tenter de trouver un peu de compagnie, la star accueille ses amis et des enfants issus de quartiers défavorisés ou atteints de maladies. Ce mode de vie, on peut le dire, assez atypique, pousse les médias à s'interroger sur lui. Déjà la cible de nombreuses rumeurs depuis la fin des années 80, Michael s'isole dans cet endroit et se montre, malgré lui, de plus en plus intriguant.
Ce qui m'a inspiré pour Neverland, c'est très simple. J'ai juste mis en forme les choses que j'avais en moi. J'ai créé les choses que j'aimais. Et ce que j'aimais, les enfants les aimaient aussi. Ou les enfants qui sommeillent en chacun de nous l'aimaient aussi. J'ai mis derrière les portes de Neverland tout ce dont j'ai été privé quand j'étais un enfant.
Neverland, une pièce du puzzle extrêmement importante dans la vie de Michael Jackson. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a du mal à comprendre l'attachement de Michael pour cet endroit. Qu'est-ce que ce lieu représente pour lui, Isabelle ?
Michael Jackson, à Neverland, finalement, peut avoir l'air d'être enfermé. Et pour certaines raisons, certainement, on peut considérer que c'est le cas, puisque finalement, en allant habiter à l'extérieur de Los Angeles, du monde des affaires et de sa vie trépidante, on peut se dire qu'il perd un peu le fil, il perd un peu les notions, il est hors du business. En même temps, c'est vraiment, je crois, un besoin vital pour Michael Jackson. On a souvent dit que Neverland est en fait son intériorité. On voit à Neverland ce qu'il avait à l'intérieur de lui. C'est une œuvre pour lui. Je crois que ça fait vraiment partie, non pas d'une production, mais d'une création artistique, puisqu'il l'a vraiment pensé dans ses moindres détails, jusqu'aux ferronneries des jardins, aux sons musicaux qui y passaient, aux faux bruits d'oiseaux, aux vrais animaux sauvages. C'est toujours un mélange de fantaisie, de réalité, d'intimité, de grand public, d'enfance également. Il se met en quelque sorte à nu. Je pense que c'est un endroit qui lui fait du bien, où il peut se ressourcer, mais c'est aussi un endroit certainement qui le rend vulnérable parce qu'on peut y lire tout ce qui le constitue et qui est sa vulnérabilité.
Après s'être ressourcé à Neverland, Michael débute la deuxième partie de la tournée du Dangerous Tour en Thaïlande le 24 août 1993. Il fait le show comme à son habitude et les 70 000 spectateurs sont conquis à l'issue du concert. Au même moment aux États-Unis, les révélations d'un jeune adolescent proche du roi de la pop quelques jours plus tôt font l'effet d'une bombe. Michael Jackson est accusé d'agression sexuelle sur mineurs. C'est une véritable onde de choc qui se propage dans le monde entier aussitôt la plainte déposée. Une accusation lourde de conséquences sur la carrière et la vie du roi de la pop. C'est une longue et lente descente aux enfers qui commence alors pour Michael. Les médias du monde entier s'intéressent alors à cette histoire qu'on appelle désormais l'affaire Chandler. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir été avec nous, merci Isabelle pour toutes ces précisions. On se retrouve le mois prochain pour la suite de votre série. En attendant, je vous prépare des petits bonus pour vous aider à patienter jusqu'à la diffusion du prochain épisode. Et justement, soyez là pour la suite de votre série, puisque j'accueillerai un homme qui a connu Michael Jackson dans son adolescence et qui a passé du temps avec lui à Neverland. Il nous dira qui était l'homme qui se cachait derrière le roi de la pop. D'ici là, prenez soin de vous, partagez ce podcast autour de vous et n'oubliez pas, faites comme ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire. Soyez différents, soyez uniques, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être un destin de légende entre vos mains. À très vite.